L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. On va maintenant aller à la parole de Dieu. Vous êtes prêts? On va juste pencher nos têtes et prier maintenant. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, on te remercie, Seigneur, encore une fois pour cette belle opportunité que tu nous donnes d'être dans ta parole. On te remercie pour la présence de ton Saint-Esprit. Seigneur, je te demande de remplir ma bouche ce matin. Je te prie, Seigneur, de diriger mes paroles, que ce soit tes paroles qui touchent les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ont besoin d'être encouragés ce matin. Je prie que tu puisses venir mettre un baume de guérison. Pour ceux, Seigneur, qui sont déjà dans la joie, je prie que tu puisses multiplier cette joie. Pour nos amis sur Internet et à la radio, je prie, Seigneur, que ton esprit puisse travailler dans leur cœur également. Merci, Seigneur Dieu, parce que Tu élargis notre territoire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu magnifies, Seigneur, cette voix qui circule, Seigneur, partout à travers la francophonie. On te remercie pour le privilège qu'on a d'être ensemble aujourd'hui et de croire ta parole ensemble et de voir ta gloire ensemble. On est pris au nom de Jésus. Amen. Amen. On a commencé une série, il y a 3 semaines, « Comment vaincre le découragement ?» On a vu dans cette première prédication que nous sommes en guerre. Et c'est la première chose qu'on avait à voir pendant cette prédication-là, simplement réaliser que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et lorsque nous avons des moments d'angoisse ou de l'oppression, des choses qui viennent contre nous, on doit discerner que c'est l'ennemi qui vient contre nous. Et c'est une chose super importante qu'on puisse juste réaliser que l'ennemi ne s'oppose pas juste à nous, mais s'oppose à notre destinée et il s'oppose également à notre territoire ou notre sphère d'influence. Parce que chaque personne va toucher une autre personne. Et quand on est écrasé, on est neutralisé et on n'est pas à l'œuvre pour le royaume de Dieu. Et Satan se réjouit de ça. Satan veut faire en sorte que chaque enfant de Dieu soit neutralisé dans la dépression, dans le découragement. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous vous rappelez de ce message-là? Amen. Ma mère s'en rappelle. Et les autres, est-ce qu'il y avait d'autres? Mais si on se rappelle de ça, si on réalise, Satan veut nous écraser. Si on réalise ça, que ce n'est pas Dieu qui veut qu'on soit écrasé, mais c'est Satan, il va travailler dans nos pensées. Et c'est là, vraiment, comme Joyce Meyer a écrit un livre, « The Battlefield of the Mind », qui nous dit « Notre champ de bataille, c'est dans nos pensées. » C'est là où ça se passe. Des fois, l'ennemi va venir avec des mensonges. Je dis des fois, souvent, 3/4 du temps, c'est des mensonges. Des fois, il va prendre un peu de vérité, parce que pour que ça soit crédible, donc un peu de vérité, et puis il va amplifier. Il va nous emmener toutes sortes de notions qui sont erronées. Et puis, on est là. Là, on commence à croire ces choses-là et on vient décourager. Mais si on réalise aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à être dans la joie et vivre dans la joie, bien, je dois discerner que ce qui vient m'écraser et me neutraliser ne vient pas de Dieu. Amen. Je suis réveillé. Si je réalise aujourd'hui que j'ai le privilège d'être dans la joie à chaque jour de ma vie, je vais vraiment discerner ces choses-là. Amen. Ça, c'est la première prédication qu'on a vue ensemble. Ensuite, comment vaincre les orages de la vie? On a vu qu'il y avait des tempêtes qui venaient dans nos vies. Et peu importe, même Jésus a eu des tempêtes dans sa vie. Mais le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait, il a parlé à la tempête. Et ce qu'on a vu la semaine passée, c'était l'importance de la confession de la parole de Dieu. Pas simplement une confession, mais une confession de foi. Amen. Et on a vu comment on peut parler aux tempêtes de nos vies et voir des victoires. Et ce matin, le thème, c'est comment vaincre les cycles de défaite. Comment vaincre les cycles de défaite? Avez-vous vos épées ce matin? Amen. C'est important d'avoir vos Bibles avec vous à chaque fois que vous venez à l'Église, parce qu'on est là dans la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui va faire un impact dans votre vie. Des fois, on se rappelle parfois ce qu'un pasteur a dit, même des fois 10-15 ans, quand ça nous a vraiment touchés, il y a des choses qu'on se rappelle, des choses qui nous ont vraiment marquées. Mais c'est la parole de Dieu qui dure éternellement. Amen. Le texte qu'on veut lire ce matin, très simple, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » Vous connaîtrez la vérité. Et ici, on ne parle pas ici juste d'une connaissance intellectuelle, mais on parle d'une connaissance par révélation. On parle ici d'une révélation de la vérité. « Vous connaîtrez la vérité intimement, vous connaissez la vérité. Et cette vérité-là que vous connaissez vous affranchira. » Combien d'entre vous ici, vous connaissez la vérité? Vous savez que le Seigneur vous aime. Vous savez que Jésus a tout accompli pour vous sauver, pour vous libérer. Vous connaissez ça intimement. Vous le savez par révélation. C'est pas intellectuel, mais vous le savez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire on est déjà libéré. On est libre en Jésus-Christ. On est libre en Jésus. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On peut rester là pendant quelques temps, même sur un seul verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce qui est absolument merveilleux, quand je réalise ça, c'est pas temporaire. C'est pas, vous connaîtrez la vérité pendant un temps, jusqu'à ce que vous viviez un temps de découragement, jusqu'à ce que des vents contraires arrivent, et là vous serez de nouveau liés et découragés. Ce texte ne nous dit pas ça. Le texte nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est la vérité que vous connaissez qui vous affranchit. C'est cette vérité qui demeure. C'est une vérité permanente. La parole de Dieu ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc, la parole de Dieu que vous connaissez vous gardera éternellement libre. C'est une chose importante ce matin, de comprendre ceci. Si je suis éternellement libre, c'est permanent, ma liberté est permanente. Si je réalise cela aujourd'hui, la prochaine fois que l'ennemi va venir contre moi, je vais pouvoir me tenir ferme dans la foi et dire non, plus jamais. Il y a des personnes ici, peut-être certaines personnes ici, vous avez connu des cycles de défaite, où vous avez été dans des prédications, vous avez reçu des messages par exemple, vous avez été bâti dans la foi, là vous avez reçu cette parole de foi qui est venue en vous et vous avez été béni, vous avez dit « c'était le message dont j'avais besoin ». Avez-vous déjà vécu ça? Je l'espère. Mais vous êtes là puis vous dites « ah, ça m'a fait du bien, c'était le message pour moi, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a vraiment guéri et puis je vis une victoire, je vis quelque chose d'absolument merveilleux, c'est une délivrance. » Amen. Il y a des fois comme ça. Et là, on quitte l'église, on est encouragé et on marche dans notre vie chrétienne pendant quelques jours dans la joie. Et là, on a pris des décisions. Là, je vais penser comme Dieu pense. Je vais parler comme Dieu parle. Je vais méditer sur les choses de Dieu. Et là, pendant quelques jours, ça va bien. Vous avez déjà vécu ça, peut-être, certains d'entre vous? Amen. Mais là, un vent contraire vient. Et là, tout d'un coup, on met de côté la parole qu'on a entendue. Tout d'un coup, on commence à méditer sur les choses sombres, les choses négatives, les choses qui viennent du royaume de l'ennemi. Et là, tout d'un coup, on commence à parler comme on pense, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et au lieu de croire Dieu et de continuer dans la victoire, qui devrait être là en permanence dans nos vies, là, on commence à prendre une débarque, comme on dit en québécois. On prend une débarque spirituelle et on abandonne notre victoire et on prend notre défaite. Et je dis notre défaite parce qu'on se l'approprie. Mais en fait, on ne devrait jamais prendre la défaite. Parce que c'est une chose, aujourd'hui, on veut être conscient qu'il y a des cycles. Et si vous avez vécu souvent des cycles de défaite dans votre vie, où pendant un temps, ça allait bien, mais là, vous prenez une débarque. Et puis là, ça l'arrête pendant des jours, peut-être des semaines, et peut-être même jusqu'à des mois, peut-être certains d'entre vous, c'est des années comme ça. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle qui nous dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira pour toujours. Comprenez ceci, pour toujours. Si vous avez vécu des cycles de découragement, aujourd'hui vous pouvez prendre la décision, c'est fini à tout jamais. Je suis dans la vérité, je suis dans la liberté et c'est permanent dans ma vie. Je ne retournerai plus jamais en arrière. C'est fini, plus jamais des cycles de victoire en défaite, de victoire en défaite. Mais je vais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et c'est possible. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, je ne serai plus jamais malade de toute ma vie. Et je peux vous dire, c'est qui? C'est ma femme. Elle me disait ça. J'aime ça, des confessions de même dans la maison. Moi, je ne serai plus jamais malade, plus jamais une seule journée de ma vie. Et le croire. Plus jamais. Plus jamais de ma vie. Et là, vous dites, ouais, mais peut-être une grippe, des fois, ça passe. Oui, ça continuera, ça passera plus loin que chez nous. Oui, il y a des maux qui courent, mais chez nous, on court plus vite. Mais imaginez croire ça. Imaginez croire ce que Dieu dit. Et puis, jamais prendre la débarque. Aujourd'hui, on va prendre le temps juste de méditer là-dessus. parce que vous avez reçu suffisamment de la parole dans cette maison pour savoir quoi faire. Je peux vous le dire, puis je le dis aujourd'hui avec humilité, mais vous avez ce que vous avez de besoin. Vous avez reçu les principes de vie dans cette maison. Je sais, on vous a prêché la vie, on vous a prêché la parole de Dieu. Vous avez reçu ce dont vous avez besoin, mais là, aujourd'hui, c'est une question d'une décision et dire plus jamais de la vie. Plus jamais de la vie que je prends une débarque. Je vais rester constant dans la victoire parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et si vous la connaissez vraiment, vous connaissez la vérité qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous savez que vous êtes délivré. Vous connaissez ça. Ça fait partie. Connaissez-vous votre nom aujourd'hui? Savez-vous qui vous êtes? Moi, je connais mon nom. C'est Joel Wallace Spinks. Imaginez. Ben oui, j'ai le nom de mon père, en plus. Je connais mon nom. Je connais le nom de ma femme. Il y a des choses, il n'y a personne qui peut me dire, « Oui, mais tu pensais d'être marié avec Mathilde, mais en fait, son nom, c'est Nancy. » Non. Je suis convaincu d'avoir marié Mathilde. Je suis convaincu. J'ai une révélation. Avez-vous une révélation qui vous êtes en Christ? Amen. Là, ce matin, ce qu'on veut voir ensemble, pendant quelques instants, comprenons ce qui nous mène au cycle de défaite. Il y a des choses que l'ennemi met devant nous pour nous piéger, pour nous faire trébucher. Et si on les discerne à l'avance, on va avoir la sagesse et on va savoir comment réagir. Êtes-vous prêt ce matin? Venez avec moi dans Proverbe 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12. On peut se faire accuser d'être extrémiste ce matin. Extrémiste, dire qu'on va toujours être dans la joie, qu'on va toujours être dans la victoire. Toujours, toujours, toujours. Oui, je sais, je suis coupable. Je suis coupable, comme on m'accuse. Parce que j'aime la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne me dit jamais qu'il est permis à l'enfant de Dieu d'être dans la défaite. Mais la parole de Dieu me dit que Dieu est toujours ma source. La parole de Dieu me dit toujours que sa parole pour moi, les promesses de Dieu sont pour moi oui et amen. Il n'y a jamais aucune date d'expiration sur les promesses de Dieu. Dieu est toujours mon refuge. Ceci ne veut pas dire que j'aurai jamais des vents contraires. Je peux avoir des vents contraires. Oui, on est sur cette terre. On a des vents contraires et Satan est encore là. Il veut encore m'opposer. Si Satan ne veut pas m'opposer, c'est parce que je ne fais rien qui le dérange. Donc, autant et aussi longtemps que je vais marcher sur cette terre, l'ennemi va venir m'opposer. Ça, c'est avant l'établissement du royaume, parce qu'après le royaume, on sait, Satan va être banni pour l'éternité, puis ça, ça nous réjouit. Donc, mais pendant au moins 7 ans encore, il est sur la terre. Et après, c'est ça, j'enseignerai pas sur l'eschatologie ce matin, mais on l'a encore dans les jambes quelque temps. Et jusqu'à ce temps-là, il va avoir des épreuves, il va avoir de l'opposition, mais gloire à Dieu, je peux être dans la victoire quand même. Je vais vous lire dans la Bible du Semeur, Proverbe 13, verset 12. « Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. » Il y a des gens qui vivent la défaite parce qu'ils ont accepté le désespoir. Ils ont désespéré, ils ont abandonné l'espoir. Le temps où on est dans la défaite, c'est lorsqu'on échange notre foi en Jésus et on commence à désespérer. Si vous désespérez, vous allez entrer dans ce cycle de la défaite dans votre vie. Proverbe 13, verset 12. Je vais vous relire cette fois-ci dans la Bible Parole de vie. Il est écrit, « Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. » Je vais vous relire. Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage. Des fois, on est là, on a une promesse de Dieu, mais ça fait longtemps qu'on croit Dieu, et on est là, puis on se dit, « Mais pourquoi j'arrive pas à voir ce que je voulais de la part de Dieu? J'ai prié, j'ai confessé, j'ai fait ce que je crois j'ai dû faire, et là, pourtant, je ne vois rien en ce moment. » Puis la Bible nous dit, une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Ceci me dit que Dieu veut que je puisse voir la réalisation de mes rêves. et de mes désirs. Dieu ne nous donne pas des désirs simplement pour soupirer et dire, « Oh, si seulement je pouvais avoir cette chose. » Dieu, ce n'est pas un mauvais père. Si je disais à mes enfants, « Bien, voici, je vous offre un cadeau. Je vous offre un voyage. Je vous donne un voyage à Walt Disney, mes enfants, admettons. » Et je dis ça à ma petite fille quand elle avait 4 ans. Et mon autre, elle avait 7 ans. Et là, j'ai dit ça. « Oui, je vous emmène à Walt Disney. Vous allez rencontrer Cendrillon et Blanche-Neige. » Et les petits nains. Et ils sont là, merci papa. Mais là, mais est-ce qu'on y va cet été? Non, pas cette année, mon enfant. L'année d'après, est-ce qu'on y va cette année? Non, mon enfant, pas cette année. Rendu à 15 ans, papa, est-ce qu'on y va bientôt? Pas encore. Rendu à 18 ans, ben là, peut-être cette année. Voyez-vous, je vais les décourager. Ça prend trop de temps. Faut que ça l'accouche. C'est-à-dire, un espoir différé rend le cœur malade. Si vous avez le cœur malade, Dieu veut exaucer ces requêtes-là. Il faut voir pourquoi il y a des choses qui tardent. Des fois, il y a des raisons pour ça. Aujourd'hui, je vais vous dire, n'abandonnez jamais avant l'accomplissement de votre promesse. Si Dieu vous a donné une promesse, n'abandonnez jamais. Laissez jamais le diable vous intimider et vous faire croire autre chose. Mais si Dieu vous donne une promesse, c'est pour l'accomplir dans vos vies. Là, ce qu'on doit faire, c'est se positionner pour entrer dans la terre promise. On doit se positionner pour la vivre, pour vivre la promesse de Dieu. Amen. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Le Seigneur est en train de dire ce matin à des personnes, c'est le temps de rêver à nouveau. C'est le temps de rêver à nouveau. Vous avez peut-être abandonné certaines choses, certains rêves, parce que vous avez dit, ben, si j'ose croire encore, je risque d'être déçu. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, croyez encore. Osez rêver les rêves de Dieu. Osez regarder dans le monde de l'esprit et voir ce qui vous appartient. Des fois, on attend trop longtemps parce qu'on a abandonné, on a arrêté de croire. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de dire, croyez et rêvez. Rêver en couleur, comme je vous ai souvent dit, parce que ça ne coûte pas plus cher que de rêver en noir et blanc. Rêvez, rêvez, rêvez les rêves de Dieu pour votre vie. Et il y a des gens, des fois, qui me partagent des rêves. « Pasteur, est-ce que tu penses que c'est correct que je rêve? Je me vois en train de faire des choses merveilleuses pour le Seigneur. Est-ce que c'est correct, penses-tu? » Oui, c'est correct. Mais si vous ne faites pas des grandes choses pour Dieu, le diable va se servir des personnes pour faire des grandes choses pour lui. Mais si on peut tous glorifier le Seigneur ensemble et faire des grandes choses pour lui, le Seigneur va être glorifié. Dieu veut se servir de nous tous. Hébreux 6, verset 11 à 12, il est écrit, « Mais nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Une pleine espérance. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance hérite des promesses. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ceci veut dire que même après plusieurs années de vie chrétienne, vous pouvez avoir le même zèle que lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu. Des fois, on a une personne qui accepte le Seigneur, qui est là tout feu, tout flamme, et la personne rencontre un chrétien de 25 ans, et le chrétien de 25 ans dit, « Tu vas te calmer, là, tu vas voir, tu vas donner comme nous. » Non! On doit toujours demeurer dans la joie et être excité, parce qu'à chaque jour, on est renouvelé dans notre pensée, puis on continue à voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Moi, je peux vous dire, cette semaine, comme je priais, je remerciais le Seigneur parce que Jésus est mort sur la croix pour moi. J'ai eu un temps de louange et d'adoration parce que j'étais là puis je contemplais l'œuvre de la croix. Puis je disais, merci Seigneur parce que c'est mort pour moi. Parce que je réalise, là, parce que Jésus est mort pour moi, il m'a adopté dans sa famille, dans la famille de Dieu. Et je sais que je vais régner sur cette terre. Je sais que je vais avoir un corps glorifié. Même si les gens écoutent les nouvelles et puis on voit les désastres partout à travers le monde. Et les gens se découragent et se demandent qu'est-ce qui se passe. Même si on entend parler d'une crise économique qui est à la porte et toutes sortes de choses. Une crise économique mondiale et les choses horrifiques avec les policiers qui sont partout dans les rues aux États-Unis. toutes sortes de choses. Peut-être que vous êtes là et vous dites, je ne sais pas de quoi tu parles, pasteur. Mais partout, même s'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, moi, je sais que j'ai été sauvé à cause de l'œuvre de la croix. Puis après des années de vie chrétienne, je peux encore être ému puis remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Puis dire, c'est à cause de l'œuvre de la croix et de prier puis de savoir quand Jésus a fait ça. Là, il a reçu les clous dans ses mains, dans ses pieds, la couronne d'épines. Il a fait ça par amour pour moi. Puis non seulement ça, il m'a totalement libéré de la malédiction. Deutéronome 28 nous parle de la malédiction, mais à cause de ça, j'ai été béni. Je suis entré dans la bénédiction. Imaginez. Moi, là, je suis tellement radical que non seulement je crois dans la bénédiction, je m'attends de la vivre et je la vis. Et je vis la bénédiction dans ma vie. La bénédiction de Dieu dans ma vie. C'est merveilleux. Moi, j'aime ça, pas juste croire, mais j'aime ça vivre ce que Dieu dit. Amen. Ça dit, nous désirons que chacun de vous dans cette maison, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ceci veut dire, si vous avez eu un espoir, vous devrez l'avoir toute votre vie. Une pleine espérance pour les choses qui viennent de Dieu. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Souvent, les gens ont la foi pendant un temps, mais quand on ne voit pas assez rapidement les choses, on manque de persévérance, on abandonne la promesse, et puis là, on commence à se décourager, puis on entre dans ce cycle-là de défaite. Et aujourd'hui, si vous êtes là, puis vous réalisez, ça c'est moi, pasteur, moi j'ai souvent été dans des cycles comme ça dans ma vie. Ça va bien, ça va bien, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Avez-vous déjà vécu ça peut-être? Puis vous dites, moi je suis fatigué de vivre ça. Je veux que ça puisse être de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire à plus de gloire, et plus de gloire, et plus de gloire, que ça fasse boule de neige. De gloire, 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 et plus de gloire, encore plus de gloire, et plus de bénédiction, et plus d'abondance, plus de joie, plus de paix, plus d'explosion de la gloire de Dieu. Pourquoi pas? Moi, je prends cette parole pour moi-même. Je le prophétise sur ma vie. Je vais aller de gloire en gloire. Plus de gloire pour moi. Plus de gloire pour ma femme Mathilde. Plus de gloire pour Floramé et Félicité. Pour cette maison, je te remercie Seigneur Dieu parce qu'on va de gloire en gloire. Dans cette maison, c'est une église bénie. J'ose déclarer des choses absolument merveilleuses sur cette église. Moi, j'ose déclarer que chaque personne dans cette maison est surnaturellement guérie, qu'il n'y a aucune infirmité parmi nous, que tout le monde est dans l'abondance, qu'il n'y a aucun manquement dans cette église, que le shalom de Dieu est véritablement manifesté dans nos vies, rien de manquant, rien de brisé dans nos vies. C'est pour moi, ça, c'est pour vous, c'est pas juste pour un livre, c'est pour nous qu'on le vive ce matin. Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9, juste quelques versets avant, dans chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Si on demeure avec le programme du Saint-Esprit pour notre vie. Si on ne se relâche jamais. Puis aujourd'hui, même comme je suis en train de le dire, je sens qu'il y a des gens qui disent, mais moi je ne sais pas si je peux y arriver. Si vous vous regardez à vous-même, je peux vous dire, vous n'arriverez jamais. Mais si vous, aujourd'hui vous décidez, je vais placer mes yeux sur le Seigneur Jésus et je vais mettre mon focus sur lui et ce qu'il a commencé en moi, il va l'achever. Je peux vous garantir, vous allez vivre la victoire. Vous allez vivre de gloire en gloire. Et vous pourrez dire à la fin de cette prédication, les cycles de défaite dans ma vie sont finis à tout jamais. Et le croire en plus. Le croire, c'est... Quand on a une révélation qu'on était libéré de la défaite, c'est merveilleux. Là, on va voir ensemble les facteurs qui mènent à la défaite. On a vu premièrement le désespoir et l'abandon. Quand on a cessé d'espérer en Dieu, quand on a abandonné la promesse, là, il y a une place à la défaite. Une autre chose, l'insatisfaction. C'est une autre chose. Quand on est insatisfait. Puis si vous dites, ouais, mais moi, c'est normal d'être insatisfait parce que j'ai telle chose dans ma vie, j'ai des déceptions dans ma vie, il y a des choses que je voulais Est-ce que c'est normal de vivre parfois et dire, il y a des choses que je voulais vivre, que je ne les ai pas vécues, je suis déçu. C'est tout à fait humain d'être déçu des fois et dire, je voulais vivre ça, mais côté divin, je peux vous dire, Dieu a d'autres choses en réserve pour vous. Parce que humainement, on peut dire, ben là, il y avait ça, je suis déçu. Savez-vous, je suis un être humain? Savez-vous ça? Oui, hein? Donc, comme je vous ai déjà partagé, moi aussi, je peux vivre des déceptions et dire, je m'attendais ça de telle personne, ou je m'attendais de ceci, de cela, puis avoir des déceptions. Mais là, les déceptions vont venir, parce qu'on est sur la terre, mais là, c'est comment je vais gérer cette déception. Si je gère mal, je vais abandonner ma foi en Dieu. Je vais abandonner ma foi dans les gens. Je vais abandonner les promesses de Dieu. Mais si je gère bien la situation et dire, il y a une déception, quelque chose de négatif, mais là, je continue à croire Dieu pour la promesse, je suis en train de bien gérer les choses. Je peux dire, ben, je suis insatisfait. Insatisfait. Mais je peux vous dire, l'apôtre Paul, lui, a appris à être contenté. Contenté. Dans Philippiens 4, verset 11. Venez avec moi dans Philippiens 4, verset 11. Si vous pouvez arriver à cette place de contentement, peu importe ce que vous vivez, parce que vous savez que vous êtes un citoyen du ciel, vous savez que vous avez droit à un héritage, vous savez que la puissance de Dieu vous appartient, vous savez que l'armée céleste est envoyée lorsque vous avez besoin de protection divine, lorsque vous savez que vous avez droit à la guérison surnaturelle de Dieu, la guérison divine, vous avez droit à l'abondance, tout ce que Dieu en réserve pour vous dans sa parole, lorsque vous connaissez la vérité, vous êtes vraiment libre et vous pouvez être contenté de peu importe la situation. C'est pour ça, comme notre frère, le pasteur Jérémy et son épouse Annabelle, ils ont pu être en Afrique et peut-être vivre moins de luxe qu'on vit ici au Canada. Mais malgré ça, on ne renie pas Jésus-Christ. Hein? On n'est pas là, mais on est contenté, peu importe. Si on vit une situation plus difficile, on peut être contenté, sachant que Dieu est encore là avec nous et pour nous. Philippiens, chapitre 4, verset 11, je vais vous lire dans Bible du Sommeur, il est écrit, « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Ceci ne veut pas dire qu'on n'aspire pas à autre chose. Les gens ont mal interprété ce texte-là. Des fois, les gens ont dit, bien là, on doit être contenté avec ce qu'on a et ne pas aspirer à rien d'autre. Et dit, bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin, puis voilà, on n'aspire à rien d'autre. Non, ça veut dire qu'on apprécie ce qu'on a. Être contenté, ça veut dire, j'apprécie ce que j'ai aujourd'hui. J'apprécie. Et savoir apprécier et remercier le Seigneur pour ce que j'ai aujourd'hui ouvre la porte pour plus. La critique des choses que j'ai aujourd'hui ferme la porte à l'abondance et ouvre la porte à la pauvreté. Mais si aujourd'hui, admettons votre rêve, vous êtes là puis vous dites, ben, toute ma vie j'ai voulu avoir ma propre maison, puis aujourd'hui j'habite en appartement, je suis déçu, et là vous êtes dans votre appartement puis vous êtes là en train de vous plaindre et dire, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas la vue sur le stationnement, je voulais une vue sur une montagne, je voulais une vue sur un lac, je voulais ci, je voulais ça, puis je ne l'ai pas. Si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas contenté de ce que vous avez. Mais si vous êtes dans un appartement en ce moment, puis vous souhaitez avoir une maison, vous pouvez dire, bien, merci Seigneur, j'ai une porte patio qui me donne une vue sur le stationnement. Merci Seigneur Dieu, parce que j'ai une porte patio. Il y a des gens qui n'ont pas de porte patio et puis ils ont chaud dans leur appartement. Mais merci Seigneur Dieu, parce que j'ai une porte patio coulissante. Je peux l'ouvrir et la fermer autant que je veux, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que j'ai un toit. Il y a des gens qui sont sans abri aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu, parce que j'ai mangé aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu, parce que j'ai bien digéré mon repas. Il y a des gens qui digèrent mal la nourriture. Merci Seigneur Dieu, parce que j'ai un frigidaire pour mettre mes aliments. Il y a plein de choses qu'on peut être reconnaissant. Être contenté et dire merci, je suis content avec ce que j'ai. Et comme le Seigneur voit votre attitude, le Seigneur est là et dit, waouh, elle me remercie, il me remercie pour la porte patio. J'ai décidé de lui donner un appartement avec deux portes patio. Et là, vous voulez encore votre maison, mais là, vous allez dans un appartement avec deux portes patio, dans la cuisine et dans le salon. Et là, vous êtes là. Allez, ma chérie, ouvre la porte. Et là, on rouvre et on ferme. Et là, vous êtes contenté. vous remerciez le Seigneur, vous célébrez chaque chose que le Seigneur fait pour vous. Et là, le Seigneur est tellement béni de vous voir aller, il dit, je pense qu'ils ont besoin d'une plus grosse maison. Parce que je connais leur cœur, en plus, ils veulent héberger des gens. Ils ont un cœur, ils veulent semer. Mais là, les gens sont là, ils disent, ouais, mais on n'a pas les moyens. Ah, mais si vous avez Dieu, vous avez celui qui a tous les moyens possibles. Et j'ai connu des histoires où les gens ont été invités à venir vivre dans une maison. Il y a des gens qui disaient, bien, on quitte le pays, pouvez-vous venir surveiller notre maison pendant 10 ans et venir vivre dans notre maison de luxe? Ben oui, il y a des gens comme ça qui vivent ça. Oui, on va se sacrifier, on va y aller. Ne mettez pas de limite à ce que Dieu peut faire dans vos vies. Ne mettez jamais de limite. Ne croyez jamais les mensonges de l'ennemi. Moi, là, je vais être le plus content possible avec ce que Dieu me donne. Être satisfait, puis dire merci Seigneur. Et cette satisfaction-là, c'est pas dire que je n'ose pas croire Dieu pour d'autres choses. Je peux continuer à rêver et croire, mais je vais savourer tout ce que Dieu me donne. Si on a l'attitude comme ça, là, c'est merveilleux. Vous allez vivre des victoires et vous allez être un témoin de la bonté de Dieu dans vos vies. Amen. 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 Donc, l'insatisfaction et la déception, faut savoir comment gérer la déception et l'insatisfaction, il faut que ça soit transformé à un contentement. Il faut être contenté avec ce qu'on a. Et dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, il est écrit, là je vous invite, venez avec moi, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. C'est un verset que vous avez besoin de voir et lire avec vos yeux. Parce que quand j'ai prêché au tout début du message, j'ai prêché comment vivre toujours dans la victoire. Il y a des gens qui ont effacé ça, ou il y en a d'autres qui ont des commentaires. C'est comme un message sous-titré. Vous savez, avez-vous déjà écouté un film, et puis vous avez l'option d'appuyer sur les commentaires, et là, les réalisateurs, le directeur du film, et là, il dit, oui, on a pris cette scène, on a filmé ça dans tel contexte, blablabla. Et là, vous entendez quelqu'un parler en même temps que vous écoutez le film. Avez-vous déjà remarqué ça? Peut-être non, mais moi, oui, là. Mais il y en a des fois, il y a des gens qui écoutent les messages et il y a un commentateur qui dit « Ça, c'est pas pour toi. » Il a dit ça, « Oui, oui, mais ça, c'est quand même extrémiste, c'est pas possible. » Il y a tout le monde, écoute, même le pasteur vit des épreuves. Non, ça se peut pas, ça. Et il y en a, je vous le dis, je vous garantis, il y a des gens ici, là, vous le savez pas, mais il y a des commentateurs invisibles qui sont là et il y a des petits scénarios qui se passent dans la tête. Je vous lis la parole de Dieu qui est toujours vraie. Vous allez dire « Oui, 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 on croit la Bible. » Mais en même temps, il y a un commentateur de doute. Il est engagé par un grand département luciférien. C'est des mauvais esprits qu'on appelle. Leur agenda, c'est de voler la semence de la parole. Et la seule façon qu'ils peuvent... Ils ne peuvent pas voler la parole. Ils ne peuvent pas vous empêcher de croire Dieu. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est vous séduire à croire leur rapport au lieu de croire le rapport de Dieu. Ils peuvent juste essayer de vous séduire. Et si vous succombez et vous croyez ce qu'ils vous disent, ils viennent d'avoir la victoire. Et là, vous ouvrez la porte à la défaite. Mais là, quand je vous ai dit, on peut vivre dans la victoire et aller de gloire en gloire, s'il y en a ici, pendant que j'ai dit ça, là, vous avez entendu dire le contraire. Quelque chose qui dit non, c'est pas vraiment possible pour toi. Là, au nom de Jésus, vous devez arrêter ces pensées-là. Vous devez choisir de croire Dieu. La Bible dit, je vais aller de gloire en gloire. C'est exactement ce que je vais vivre. Savez-vous une des façons de vivre votre victoire? Avez-vous déjà entendu le mot « Amen » ? Amen, c'est un mot, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire, je suis en accord. Je me mets en accord avec cette parole. Là, le démon qui vient de vous dire, ben, c'est pas pour toi. Amen! En même temps que vous l'avez entendu dire, vous allez aller de gloire en gloire. Amen! Le diable, il est là. Ça a de l'air qu'il croit ça, là. Vous avez besoin de le dire. Si vous avez besoin de certaines paroles que je vous dis, là, on doit s'approprier ces paroles-là. Amen. Amen, 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 amen. Non, mais c'est vrai, je vous donne des petits trucs. Parce que le diable, il est là. Puis il travaille. Vous écoutez un message, mais il travaille. Puis il essaie de vous voler. Mais c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Puis on prend les promesses de Dieu, puis on les croit. On croit ces promesses-là. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Amen. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je pense qu'il y en a ici, là, vous dites, vous n'avez rien cru avant, là. Vous n'avez rien cru avant? Non, non, vous avez cru, j'espère. Je vous le relis. Soyez toujours joyeux, ça veut dire c'est pour moi. Si Dieu le dit, c'est possible. Dieu ne dit jamais des choses qu'on ne peut pas faire. Il ne dit pas, commencez à vous envoler, là. Si c'était écrit, on pourrait s'imaginer qu'on pourrait tous s'envoler. Mais il ne dit pas, donc on ne s'envole pas. Hein, sauf qu'on peut prendre l'avion, là. Mais vous comprenez. Il nous dit toujours des choses qui sont possibles. Donc, s'il dit, soyez toujours joyeux, moi je dis Amen, Seigneur. Priez sans cesse, ça veut dire que j'ai toujours une attitude de prière partout où je me promène, que je sois chez Walmart, que je sois chez Super C, que je sois chez IGA, que vous voulez. Je peux toujours prier et avoir une attitude d'intercession et toujours être en communion avec le Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, on l'a déjà dit, pas pour toutes choses, pas pour les malédictions. On remercie Dieu pour toutes choses qui viennent de Dieu. Et peu importe les choses qui viennent contre nous, on peut remercier le Seigneur dans ces moments-là parce qu'on sait que toutes choses concourent à notre bien. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, ça veut dire que c'est ça que Dieu veut que vous pratiquiez. La volonté de Dieu, c'est ça qu'il veut pour vous. Rendez grâce en toutes choses. À chaque fois que je remercie le Seigneur, je suis en train d'ouvrir la porte de la bénédiction et de la gloire de plus en plus dans ma vie. Je remercie le Seigneur et je me positionne dans plus et dans plus. L'insatisfaction crée des cycles de défaite. La reconnaissance continuelle brise les cycles de défaite. Je vous ai dit aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous, vous avez vécu des cycles comme ça. Mais je suis pas mal certain que lorsque vous êtes entré dans un cycle de défaite, vous n'étiez pas en train de remercier le Seigneur. Je peux vous le garantir. Mais la prochaine fois, je peux vous dire, l'ennemi va revenir contre vous. Il va revenir pour vous faire trébucher et vous faire embarquer dans son jeu. La prochaine fois qu'il va venir, et puis il vous dit, « Tu n'as jamais eu ce que tu voulais. » Il va venir vous dire ça. Prophétiquement, je vous dis. Là, vous allez dire, « Oh, merci parce que j'ai cette chose et je la vois. » Ou ça, je la vois avec les yeux de l'esprit. J'ai une vision surnaturelle, spirituelle. Et là, le diable, il ne comprend rien. Admettons, vous avez prié pour la guérison divine, pour la manifestation de la guérison dans votre corps, et l'ennemi vient vous accabler, vous écraser, vous dire, « Oh, tu vas toujours être malade. Tu vas aller de pire en pire. » Là, vous avez le choix d'être là-dedans, dire, « Moi, je vais être de pire en pire. » Et là, vous embarquez dans la défaite. Puis après, vous écoutez une bonne prédication. Puis là, oh non, OK, là, je suis dans la victoire. Ou, le diable vient, tu vas aller de pire en pire. Immédiatement, vous dites, Alléluia, merci Seigneur, puis je vais aller de gloire en gloire. Et là, il vient vous donner une... Alléluia, je suis guéri au nom de Jésus. Il twiste plus fort. Alléluia, oh, l'onction du Saint-Esprit coule de plus en plus dans mon corps. Hey, ça ne marche pas cette affaire-là. Et là, je suis dans le combat de la foi et j'ai refusé d'abandonner mon espoir en Dieu. Et à chaque fois que l'ennemi vient marceler puis vient me piquer, moi, je loue le Seigneur. C'est un automatisme. Il pique, le bras se lève. Pique, hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Bon. Et j'ai pratiquement rien dit. Mais... de ce que je voulais dire. Je continue. Vous êtes encore réveillés, là? Je sais que c'est long, là. OK. On continue juste deux autres choses qui ouvrent la porte à la défaite, qui préparent le chemin à votre défaite. Une débâcle spirituelle dans le monde charnel. Le diable va vous tendre une invitation au monde charnel. Mais je peux glorifier Seigneur et remercier Seigneur parce que cette année, on est en plein été. Et je peux vous dire, il y a eu un changement dans cette maison. Amen. Savez-vous ce qui s'est passé dans cette maison? Et je suis témoin. Les gens de cette maison ont décidé de croire Dieu. Les gens dans cette maison ont décidé, on persévère tout l'été. Parce que l'ennemi, des fois, il veut piéger les gens, dire, OK, là, vous êtes en vacances, et pendant les vacances, abandonnez Jésus. C'est normal, écoute, tu t'es poussé toute l'année, c'est correct. Et c'est jamais correct de débarquer. On dit toujours, non, moi, je ne prends pas des vacances de Jésus, jamais. Jésus est ma source de vie. En tout temps, J'arrête pas de respirer, moi, dans ma vie. J'arrête pas de respirer. Et je suis tellement content parce que cette année, on voit la gloire de Dieu dans les vies, là. Je suis béni de voir les croyants qui saisissent des victoires. Vous n'avez pas toujours les témoignages que je reçois, mais des gens qui prennent les promesses de Dieu, qui disent « ça, c'est pour moi, même l'été ». Gloire à Dieu, parce que notre Dieu est à l'œuvre même l'été, alléluia, et Dieu bénit même l'été, et Dieu, son cœur d'amour pour nous est toujours disponible. Puis je rends gloire à Dieu pour ça. Mais une débarque spirituelle, c'est quand on décide d'être charnel. Mais je sais, ça n'arrivera jamais ici. Dans Jacques 3, versets 16 à 17. Écoutez bien ceci. Ça nous dit, car là où il y a un zèle amer, ou la jalousie, et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Ici, ça nous dit un zèle amer, ou dans Darby, ça dit la jalousie, un esprit de dispute. Ça, c'est en réalité du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. En fait, là, ça nous parle d'hypocrisie dans l'Église. Ça, si on vit dans l'hypocrisie, ça ouvre une porte certainement à la défaite. Parce qu'on fait semblant d'aller avec Jésus le dimanche, et la semaine, on va avec le diable. C'est certain, si vous marchez avec Satan, puis c'est votre partenaire de vie la semaine, la fin de semaine, c'est Jésus, c'est la défaite. Amen? Est-ce que ça fait du sens? Ben, Jésus, on ne peut pas le prendre comme ça. C'est pas juste la fin de semaine. OK, aujourd'hui, c'est avec Jésus, puis lundi matin, avec Satan encore. Non, ça ne marche pas. C'est pour ça, des fois, ça crée des cycles. Parce que les gens décident, oui, OK, je vais à l'église, pendant 2 heures, je veux vraiment être spirituel, je veux recevoir de Dieu, je crois à Dieu, oui, oui, oui. Ah, mais là, lundi matin, bon, on oublie tout ça. Ça crée des cycles, c'est certain. C'est des cycles, et ça va causer de l'ennui dans votre vie. C'est terrible, vivre comme ça. Sauf que si je décide, je marche avec Dieu, la vérité m'a affranchi, c'est pour chaque jour de ma vie. Ça, c'est facile, hein? Le monde charnel, on ferme la porte totalement à ça. Et si on marche vraiment dans cette crainte de Dieu, la porte reste fermée. Amen. Une autre chose, voulez-vous savoir une autre chose qui peut ouvrir la porte à ce cycle de défaite? Parce que vous ne voulez plus jamais rentrer dans la défaite, n'est-ce pas? Amen. Je sais, certains d'entre vous, vous ne voulez plus jamais retourner là-dedans. La critique. La critique dans votre bouche. Là, juste quand j'ai dit ça, le mot critique, il y en a qui ont dit... Qu'est-ce qu'il va dire, là? Qu'est-ce qu'il va dire? On n'a jamais le droit de rien dire, là? Oui, vous avez le droit de... Écoutez bien. Vous avez le droit de critiquer. Je peux vous dire. Vous êtes surpris, hein? Vous avez le droit de critiquer, enfant de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit, avec la compassion de Dieu. Je vais vous montrer 2 types de critiques. Vous êtes surpris, hein, matin? Critiquons au nom de Jésus. Écoutez bien ceci. On va commencer, premièrement, avec la bonne critique. Proverbe 15, verset 31. Proverbe 15, verset 31. Je vais vous montrer ici une bonne façon de critiquer dans ces 2 textes qu'on va voir ensemble. En fait, si ça nous parle d'une personne qui reçoit de la critique, on n'aime pas ça. La chair n'aime pas recevoir la critique. OK, la chair n'aime pas ça, mais ça peut être pour notre bien. Écoutez bien ceci. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Aimez-vous ça, habiter parmi les sages? Être béni, être sur le chemin de Dieu? Si jamais un leader spirituel dans la maison vous dit « Je te donne telle suggestion, tel conseil, ou cette chose en ce moment, c'est mauvais pour toi », ça peut sembler comme une critique négative, mais en fait, c'est peut-être juste une critique constructive pour vous bâtir, c'est pour vous édifier, c'est pas pour vous détruire, c'est pour vous amener dans le bon chemin. Amen? Voyez-vous ça? C'est une bonne critique. C'est pas là pour vous accabler, vous détruire. C'est dire, écoute, ce que tu vis là, Dieu a un meilleur chemin pour toi. Ah oui? Oui, le chemin, c'est avec les sages et la bénédiction. OK? Ça, c'est super. Là, Proverbe 13, verset 18, un autre bon verset, ça dit, « Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. » Ça, on aime moins ça, hein, la misère et la honte. Moi, j'aime pas trop ça. Mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Vous dites, ben là, j'ai envie de la critique. Je vais être honoré. Non. Celui qui accepte la critique sera honoré. On parle encore une fois ici de la critique constructive. Quand c'est pour votre bien. En passant, je vais juste vous donner une indication. La façon que le Seigneur fonctionne. Il y a une femme qui est venue dans cette église et puis elle s'est présentée. La première fois qu'elle est venue à l'église ici, elle s'est présentée. Elle dit « Bonjour, je m'appelle Sœur XYZ. » J'ai un drôle de nom, toi. Et puis, et là, elle me dit « Mon appel dans la vie, c'est de venir évaluer les pasteurs pendant 6 mois. » Et après 6 mois, je vous donne une évaluation de ce que je vois dans votre vie, ce que vous avez besoin de changer. J'ai dit, ah bien, c'est super. J'ai dit, bien, votre ministère vient de s'éteindre maintenant. J'ai dit, à notre église, ça ne marchera pas comme ça. Ça fait que, mais je veux juste vous expliquer la façon que Dieu travaille. Là. Dieu travaille, c'est toujours par amour, OK? C'est une chose comme ça. Et Dieu nous donne également des personnes proches de nous pour amener la critique. Par exemple, moi, je suis entouré avec d'une équipe pastorale et je suis soumis aussi à cette équipe-là. Je marche dans l'humilité dans cette équipe-là, voulant voir la progression des choses de Dieu, de la vision que le Seigneur nous a donnée. Donc, si quelqu'un dans l'équipe arrive et dit « Regarde, il y a ça, mais il faudrait peut-être corriger ça », je sais que la personne va arriver avec un cœur selon Dieu, qui veut une bonne construction, qui ne veut pas démolir l'œuvre de Dieu, comprenez-vous? Mais ce n'est pas au brebis d'aller corriger chaque pasteur de l'Assemblée. Savez-vous ça? Je vous le dis. Croyez-le, croyez-le pas, vous suivrez un cours à l'IBEM. Vous suivrez ça. Mais ce n'est pas comme ça, parce que si c'était le cas, écoutez, il faudrait réécrire la parole de Dieu. Mais vous comprendrez. Les gens qui critiquent comme ça, qui critiquent, dans le sens, sont là, sont des évaluateurs, sont assis dans l'église, et puis ils évaluent les gens en avant. Des gens qui font ça, ouvrent la porte toujours à la défaite. Il y a une promesse qui est là, mais la promesse est impossible pour eux. Est impossible, parce qu'ils ne vivent pas, ils ne marchent pas dans l'amour, ils marchent dans la critique. Et je peux vous garantir, là, c'est pas parce que j'ai peur de la critique, mais c'est par amour pour vous. Si vous faites ça, là, premièrement, vous allez toujours avoir une raison de critiquer quelqu'un, parce qu'il n'y a aucune personne de parfaite. Même si on a un cœur qui aime Dieu, vous allez toujours trouver une chose que vous n'aimerez pas. Je peux vous le garantir, il y a toujours une raison, une façon de critiquer. Je suis capable, moi aussi j'ai déjà été à l'église, je suis capable de critiquer, savez-vous ça? Oui, vous ne savez pas, mais je suis capable de critiquer, je suis capable de trouver des fautes. Je peux dire, non, je n'ai rien, je ne trouve rien, mais admettons, non mais je pourrais critiquer quelque chose, OK? On est tous capables de voir le négatif, mais de voir le positif, c'est autre chose, de choisir de voir le positif. Mais ceci dit, quand vous voyez quelque chose de négatif, votre responsabilité, c'est de prier. Pour que la chose soit transformée, par amour. Pas faire des réunions de prière où, OK, là, on va prier pour le pasteur. Puis là, on va prier parce que là, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Puis, prions pour ça, là, parce que vraiment, là. Non, mais je ne suis pas né hier. Non, mais en passant, ça ne se passe pas dans l'église. Je ne crois pas ici. Mais je l'ai vu ailleurs. Puis je trouve ça épouvantable. C'est parce que ces gens-là ne rentreront jamais dans la victoire, dans la vie de victoire. Je peux vous le garantir. C'est des gens qui tournent en rond. Si on ne veut pas tourner en rond, on doit faire attention aussi à nos associations. Si vous vous associez avec quelqu'un qui parle en mal de d'autres personnes, ça va vous contaminer. Moi, je ne m'associe pas avec des gens qui parlent contre les gens. Jamais. Je ne fais pas ça. Je veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être contaminé parce que je veux marcher dans l'amour. Parce que la foi opère par l'amour. Si je ne marche pas dans l'amour, la foi ne fonctionnera pas. Et puis, si ma foi ne fonctionnera pas, je ne pourrai pas avoir les promesses de Dieu. Si je n'ai pas les promesses de Dieu, je ne vivrai pas dans la victoire, je vais vivre dans la défaite. Si je vis dans la défaite, ça ouvre la porte à la malédiction. Si ça ouvre la porte à la malédiction, ça ouvre la porte à toutes sortes de choses horribles. La maladie, la pauvreté. Je ne veux pas ça, moi. Je veux être béni. Amen. Merci, ma Saint-Martin. Mais il y en a d'autres, peut-être, qui vont... Je vais prêcher ici, maintenant. Je veux être béni, moi. Mais... C'est vrai, là. Je veux être béni. Ça fait que moi, je ne passerai pas mon temps à critiquer mon frère ou ma sœur parce que la Bible m'en défend. Ce que je veux faire, c'est bénir mes frères et mes sœurs par ma bouche. Ceci dit, ça ne veut pas dire que jamais place à l'amélioration. Si vous voyez une situation, là, puis vous dites, ça cloche, ça. Allez voir la personne au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il y en a de la critique constructive. Avez-vous vu ça? Il y a la critique constructive. La critique constructive, ça va être pour bâtir le royaume de Dieu. Amen! Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous voyez quelque chose, vous allez voir la personne avec amour pour amener, peut-être selon vous, avec humilité, parce que peut-être vous vous trompez, là, ça se peut, hein? Mais admettons, vous ne vous trompez pas, puis vous dites, il y a cette chose-là, si on faisait ça comme ça, est-ce que ça pourrait marcher? Puis là, vous pouvez en parler. Mais si vous ne parlez pas à la personne qui peut faire un changement, Vous êtes en train de faire la critique destructive et vous vous opposez au royaume de Dieu. C'est ça que vous faites. Et Dieu n'aime pas ça quand on s'oppose à son royaume. Parce qu'il y a des gens en masse de démons de l'enfer qui l'opposent. Ce qu'il a besoin dans l'armée, c'est des gens qui aiment le royaume. Comprenez-vous ce que je vous dis aujourd'hui? Si vous aimez le royaume de Dieu, puis vous voulez voir son royaume avancer, vous allez constater qu'il y a des choses imparfaites. Vous allez prier pour ces choses imparfaites et vous allez parler avec courage. Des fois, ça prend du courage à les dire. Mais vous allez le faire, vous allez prier avant. Et là, quand vous apportez votre critique constructive aux personnes que Dieu a mis dans votre sphère d'influence, vous allez leur dire, admettons, vous êtes dans un département, puis vous dites, ben là, moi, il y a cette chose-là, je trouve qu'on pourrait peut-être améliorer ça, ou moi, je ressens ceci, cela. Il y a toute une façon de le dire aussi. Ça s'appelle le tact. Amen. Priez, si vous n'avez pas de tact, priez d'avoir du tact. Si vous dites, ben c'est tout pourri, ce ministère-là, c'est pas la bonne façon. Tout le monde, c'est des airs de bœuf ici, admettons. C'est pas ça non plus. Comprenez. Mais si vous dites, je pense qu'il y a de la place à la critique constructive. Parce que si je fais juste vous dire, il ne faut pas parler un contre l'autre, vous allez dire, ouais, c'est bien beau. Mais en vraie vie, là, regarde, il y a des choses qui clochent des fois. Comment est-ce qu'on va le vivre? Moi, je veux être capable de parler et rester béni. Savez-vous, c'est possible? C'est possible d'apporter une critique constructive dans l'amour et de rester béni. Amen. Et de ne pas rentrer dans un cycle de défaite. Parce que si je commence à parler, là, j'appelle Janine. Puis Jean-Guy. Puis là, je parle de Maurice. Ou de Bernard. Je sais pas trop Guy. Je parle de tout ce monde-là, là. Puis je parle, là. Ça n'a rien donné. Parce qu'ils n'ont pas aucune autorité pour rien changer. Ça a juste fait de la murmure. Amen? Ça fait de la murmure. Ça n'a rien fait. Ça n'a pas construit le royaume de Dieu. Je fais un péché devant Dieu en faisant ça. Je suis en train de travailler à détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça que les divisions d'église arrivent. Mais gloire à Dieu. Ici, je sais qu'on a une église mature. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris, mais peut-être pas tout le monde. Donc, aujourd'hui, s'il y a des choses, allez directement à la personne responsable. Amen? Et là, quand vous faites ça, vous y allez avec un esprit d'amour pour le Seigneur, un esprit d'amour pour la personne, avec un esprit d'humilité, parce qu'on ne connaît pas tout. Hein? On n'est pas des petits joues connaissants, on ne connaît pas toutes choses. Peut-être il y a des raisons, des fois, pourquoi telles choses sont faites. Et là, on y va avec amour. Et si c'est tellement insupportable, à ce moment-là, on quitte une église. Quand c'est insupportable, puis on dit, ça c'est trop flagrant, impossible. Mais si c'est possible, puis on dit, bien, j'aime moins ça, mais quand même, je suis capable d'avoir la grâce de Dieu pour supporter cette chose-là. C'est là où on arrive, on n'embarque pas dans un cycle de défaite, on arrive à la maturité. C'est même qu'on appelle ça. Et savez-vous ce que cela va faire dans une église? Ça rend une église forte. Une église forte qui se tient. Si quelqu'un vient me parler, admettons, contre mon épouse, les gens savent de ne pas le faire, là. Mais admettons, quelqu'un ne sait pas, c'est ma femme. Je l'ai déjà vécu, ça. J'étais à Ottawa dans une convention. Puis là, il y a une petite femme qui était venue me voir, qui me dit, « Hey, la petite blonde, là, non, non, non. » Je l'écoute parler. Cette femme-là était escortée en dehors de l'église. Parce que des femmes comme ça, on n'a pas besoin. Hein? Amen, vous êtes d'accord? Amen. C'est la même chose. Dans la maison de Dieu, il faut avoir de la loyauté, l'intégrité, de la transparence. Amen. Parce qu'on veut vraiment s'aimer. Puis moi, je peux vous dire, dans cette église-là, je suis béni, parce qu'on le vit, à ma connaissance. À ma connaissance, on le vit. Mais si vous êtes là, puis aujourd'hui, vous réalisez, moi, je n'ai pas toujours vécu. Aujourd'hui, c'est le temps de sortir du cycle de la défaite et de dire, aujourd'hui, je débarque le cycle de la défaite et j'entre dans le cycle de la bénédiction. Amen. C'est possible. OK. Là, je vais vous lire un verset, « Mauvaise critique, la destruction de l'autre », dans Jacques 4, verset 11. Il est écrit, « Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. » Ne vous critiquez pas les uns les autres. Ça veut dire parce qu'on n'est pas là à se critiquer les uns les autres, on est là à aller régler une chose, un à un. Aller voir la personne. En passant, s'il y a une personne dans l'église qui commente ou qui critique la vie des gens, arrêtez-la au nom de Jésus. Dites, ce que tu me dis en ce moment concernant ce frère-là, est-ce que tu es allé voir la personne pour en parler? Demandez la question, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Arrêtez la personne qui parle d'une autre personne et dites, est-ce que tu en as parlé avec la personne? Si la personne dit non, je dis, bien, premièrement, va régler l'affaire avec ton frère. Amen? Est-ce qu'on peut prendre cette entente-là? Cette église est forte aujourd'hui. On est une église forte, on est une église qui marche dans l'unité et dans l'amour, mais ça prend toujours ce retour aux bases et dire, On veut vivre dans la victoire et être dans les cycles de la victoire et continuer toujours là-dedans. Mais il faut toujours se ramener à ces choses-là parce que l'ennemi s'infiltre par la bouche. Il veut maudire, il veut qu'on se maudisse. La seule chose qu'il peut faire contre nous, c'est se maudire entre nous. Savez-vous ça? Amen. Savez-vous ça ce matin? Il ne peut pas venir, il ne peut pas arriver ici et dire, « OK, dorénavant, on coupe cette église en deux. » Il ne peut pas faire ça, il n'y a pas aucune autorité. La seule chose qu'il peut faire, c'est passer par vous pour la détruire. C'est passer par des êtres humains pour la détruire. Et comment est-ce qu'il fait? C'est en inspirant les gens à se maudire et maudire les frères et les sœurs. Il faut être vigilant. On est dans une guerre spirituelle, comme on a dit dans la première réunion. Et là, je termine avec un verset. Et je vais continuer. Je vais terminer la semaine prochaine avec cette série. Donc, si vous comprenez bien ce matin ce que je vous ai dit, on a le droit à la critique positive. Avez-vous compris ça ce matin? Amen. La critique constructive pour bénir le peuple de Dieu. Parce qu'on aime l'Église, puis on aime notre frère, on aime notre sœur. Oui, il y a de la place à ça. Mais je peux vous dire, quand on commence à avoir la critique constructive, la critique diminue énormément. Elle diminue parce que des fois, les gens disent, « Ouais, mais si j'étais à sa place, peut-être je ferais pareil. » Et là, on commence. Quand on réalise qu'on est responsable d'amener une critique constructive, des fois, on se dit, « Ben, finalement, c'est pas si terrible. » C'est vrai. Des fois, on rentre en nous-mêmes. Parce que l'ennemi veut juste qu'on puisse jouer dans son terrain. Mais si on est dans le terrain de Dieu, il y a toujours une responsabilité. Savez-vous ça? À chaque fois qu'on est dans le terrain de Dieu, Dieu nous donne une promesse, Dieu nous montre une façon de marcher, il y a toujours une responsabilité là-dedans. Là, OK, Dieu m'a fait voir ça. Là, je dois le faire et je dois marcher dans l'amour et je dois adresser la situation. Mais Satan veut vous mettre la loupe sur des choses sans l'adresser, juste à contribuer à la malédiction. Amen. Ben moi, je trouve que je prêche bien en ce moment. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je termine l'importance en parlant justement de ces cycles-là. On a vu les choses de base qui ouvrent la porte à la défaite. Une dernière chose, un verset que vous connaissez très bien dans Proverbes 23, verset 7. Ça nous parle de l'importance de bien penser par la suite. Je dois vraiment protéger ma façon de penser. Si je restais dans la victoire, car il est, en parlant de l'homme, car il est comme les pensées de son âme. Ce que vous pensez, c'est ce que vous allez vivre. Ce que vous pensez, c'est ce que vous allez vivre. Si vous pensez la victoire, vous pensez les promesses de Dieu, vous allez vivre les promesses de Dieu. Et c'est sûr, ce que vous pensez, c'est ce que vous allez déclarer de votre bouche. Donc, tout ça, c'est ensemble. Vous vivez ce que vous pensez, frères et sœurs. Je me permets un dernier passage, après ça j'ai fini. Je sais que votre hot dog vous attend. Écoutez bien, j'ai lu ce texte-là la semaine passée, et je vais vous lire, notre sœur Denisa a envoyé ça, m'a envoyé ça par courriel dans la version français courant, et j'ai vraiment aimé cette version-là. Proverbe 4, versets 20 à 23. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils, ne laisse pas tomber dans l'oubli. » Mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avez-vous remarqué ici, là? Si vous acceptez la parole, là, ça va vous apporter la vie. Avant tout, au verset 23, prends garde à ce que tu penses. Verset 23, Proverbe 4, 23. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ça, c'est clair comme d'eau de roche. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Mais avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Votre vie dépend de vos pensées. Moi, aujourd'hui, je pense à victoire. Et il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Je me demande si je peux vous le dire quand même. Il ne reste plus de temps. C'est juste, il y avait juste une dernière chose, c'était super importante. Ah oui, vous me donnez 2 minutes? OK, il faut juste que je vous lise ça parce que c'est tellement important. Là, vous avez entendu des choses ce matin. Vous dites, oui, c'est vrai. C'est bon, je vais faire ça. Oui, oui. OK, écoutez bien. Là, on doit comprendre non seulement l'importance de bien penser, mais l'importance de bien écouter par la suite. Pourquoi? Dans Marc 4, verset 24, puis je l'ai trouvé dans la version Bible des peuples, parce que c'est la meilleure version pour la comprendre. Ça dit, il leur dit encore, c'est Jésus qui parlait. Que faites-vous de ce que vous entendez? Que faites-vous de ce que vous entendez? on vous donnera selon la mesure même où vous en ferez bon usage. Et vous recevrez mieux encore. Je vais vous relire. On vous donnera selon la mesure même où vous en ferez bon usage. Si vous entendez la parole et vous n'en faites pas un bon usage, vous laissez ça tomber à terre, c'est une parole qui passe au-dessus de votre tête, vous ne recevrez rien de plus de révélation de la part de Dieu. Mais on vous donnera selon la mesure même où vous en ferez bon usage. Si ce que vous avez entendu ce matin, vous décidez, je vais en faire un bon usage, je veux le mettre en pratique ce matin. Je veux croire ça. Je veux vraiment le dire, plus jamais la défaite dans ma vie, plus jamais des cycles de défaite. Je n'ai pas dit plus d'épreuves, que l'ennemi n'essaiera plus, mais j'entrerai plus jamais dans un cycle de défaite au nom de Jésus. Si vous le dites aujourd'hui, là, vous êtes en train de faire un bon usage de ce que vous avez entendu. Amen. Et là, dans Jacques 1, verset 22 à 24, ça dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Laissez ça descendre. Est-ce que c'est rendu, là? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre dans la pratique de la parole, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux. C'est tout. Il sera heureux. Si ce matin, vous dites cette parole-là, qu'on peut être toujours dans la joie, qu'on peut être dans la victoire, et que les cycles de défaite sont finis à tout jamais dans ma vie, et j'ai découvert, oui, il y a des portes que Satan va ouvrir, des pièges qui met devant moi, la critique, murmure, des choses comme ça, l'abandon de l'espoir, toutes ces choses-là, je les ai identifiées, je les discerne, et au nom de Jésus, plus jamais que je rentre dans ces portes-là. Plus jamais de ma sainte vie. Plus jamais. C'est fini, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je suis libre et plus jamais que je vais être enchaîné par le diable. Plus jamais, c'est fini. Les cycles de défaite, il y en a qui le vivent, mais pas moi. C'est fini. Vous savez ce qu'on vient de vivre un matin? Je peux vous dire, l'ennemi avait une stratégie contre cette église parce qu'on s'apprête à faire encore d'autres ravages. Et ce matin, on vient d'avorter ses plans. On vient de l'avorter avant son coup. Amen. Êtes-vous content? Là, vous faites tourner à droite et à gauche et saluez votre frère et votre soeur et dites « Je t'aime avec l'amour du Seigneur. » Ça va le faire suer encore plus. Amen. Êtes-vous capable? On va terminer la réunion en se bénissant les uns les autres. « Je t'aime avec l'amour du Seigneur. » Dites-le et soyez bénis. On déclare sur vos têtes le shalom, rien de manquant dans vos vies, rien de brisé au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Soyez richement bénis en Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.